Bien, eh bien, bonjour à tous pour une nouvelle édition du bulletin Azur en mode témoignage. Donc, juste pour ceux d'entre vous qui connaissent absolument pas le bulletin Azur, hein, je voudrais raconter un tout petit peu comment ça fonctionne et présenter les gens qu'on y retrouve en général. Donc, on est toujours trois, Benjamin qui n'est pas là, Thomas qui n'est pas là, et Pierre, et on a en règle générale les invités. On verra Thierry tout à l'heure ce que tu fais. Pour découvrir un petit peu tous les aspects d'Azure. Alors tous les aspects, c'est deux grands modes de fonctionnement. Vous trouverez à peu près tous les mois un bulletin Azure qui est la reprise d'un format américain qui raconte plein de choses. En gros, on vous donne un mois d'actualité sur Azure. Le prochain aura lieu le 10 mai. Et donc vous le verrez vous vers le 14-15, hein, le temps qu'on mette en boîte et qu'on publie. Et puis à côté de cette série, donc vous retrouvez sur Channel 9 à plein d'endroits, on a également des numéros spéciaux qui sont des numéros de témoignages. Donc la dernière fois, on avait vu The Cloud qui nous racontait un petit peu ce qu'il faisait avec un peu d'Azure, un peu de robotique, enfin des choses très diverses et variées. Aujourd'hui, on va se focaliser un petit peu sur un cas très concret. Donc de quelqu'un qui est parti sur Azure il y a 2 ans à peu près, ça Thierry?
2 ans, exactement.
2 ans exactement même. En fait, on a choisi comme date anniversaire
C'est
pour faire
ça.
cet événement. Et du coup, je vais commencer par demander à Thierry de se présenter et puis après, on va raconter un peu ce qu'il a fait.
Donc, Thierry Bazolaire, je suis le directeur technique de Mobiles République. Mobiles République, c'est une start-up bordelaise fondée il y a 4 ans et qui développe des applications. Alors, il y a 4 ans, c'était des applications sur mobile. Depuis, les choses ont évolué parce qu'on trouve des applications sur plein d'autres supports. Et aujourd'hui, on est présent sur des smartphones, mais aussi des tablettes, Windows 8, enfin toute une gamme de produits
Ok.
qui hébergent des applications.
Alors en matière de site, donc vous avez différentes thématiques aujourd'hui et qui sont là, c'est
C'est
ça?
ça. Donc notre cœur de métier, c'est des applications d'actualité. Donc on agrège du contenu provenant de aujourd'hui plus de 300 fournisseurs. Donc on les agrège et on propose ensuite aux utilisateurs finaux de les retrouver au sein de aujourd'hui 4 applications. Donc News République qui est une application on va dire de news généraliste. Happy Geek un côté plus high-tech. Glam Life plus de l'actualité people. Et enfin la prochaine verticale, c'est Sports République qui, comme son nom l'indique, comprend les actualités
Plutôt
de sport.
sportive, j'imagine.
Oui.
D'accord. Donc ça, c'est les applications. Alors, quand on dit application, on ne parle pas de la façon de la consulter, on parle plutôt de la nature des infos et de tous les accords que vous avez avec les fournisseurs de news. Après, côté consommation, c'est très varié.
On a ici un exemple des supports qui héberge enfin, ces applications-là, donc de l'Android, même de la télé avec Google TV, iPhone, iPad et aussi voilà, Windows Phone et Windows 8. Donc là, c'est un exemple avec News République où on voit sur les différents supports à quoi ça ressemble. Et donc voilà, c'est vraiment de l'agrégation de contenu et de la mise à disposition de ce contenu à l'utilisateur final avec un objectif qui est de proposer, justement, on a 300 fournisseurs de contenu, donc de proposer une solution intelligente pour que chacun retrouve le contenu qui l'intéresse.
D'accord. Alors, pour celle sur Windows Phone, hein, vous pouvez la télécharger, la trouver directement.
Oui, elles sont toutes
Elles sont toutes
disponibles.
immédiatement
Oui.
disponibles et téléchargeables.
Ouais.
Alors, juste pour la petite histoire, hein, Thierry et moi, on se connaît d'une vie d'avant. En fait, avant que Thierry fonde sa start-up, on avait travaillé dans d'autres endroits. Et puis, on ne parlait pas du tout d'Azure. Et donc, moi, la
Non.
chose qui m'a. Quand on a commencé à préparer ce bulletin Azure ensemble, je lui ai dit, mais comment t'es arrivé sur Azure? Donc, juste que tu nous racontes ce qui t'est arrivé et d'où t'est venue l'idée d'aller là-dessus.
La vraie histoire, c'est que je crois que je suis abonné à la liste de diffusion MSDN et que, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai dû recevoir un mail qui m'invitait à tester Azure gratuitement. Il se trouve que cette matinée-là, je ne sais pas, je ne devais pas avoir un planning très chargé. Et du coup, voilà, je me suis prêté au jeu et C'est vrai que le cloud Azure, ça me paraissait être une montagne. On est une petite équipe, donc on ne part pas d'habitude sur des choses très compliquées. Donc ça me paraissait être très compliqué, mais il se trouve qu'en fin de matinée, j'avais mon site web hébergé dans le cloud et que du coup, bah, j'ai regardé la solution un peu plus en détail.
D'accord. Enfin, il faut quand même dire que tu n'es pas n'importe qui, donc il faut un Visual Studio de déjà installé et une connaissance de .NET.
Voilà, je fais un peu de développement serveur et essentiellement sur les technologies Microsoft, donc .NET, C#. Donc du coup, c'est vrai que j'avais déjà l'environnement de travail qui était prêt. Mais voilà, ce qui m'avait agréablement surpris, c'est que en une heure, j'avais mon site Hello World hébergé dans le cloud. Et voilà, tout est parti effectivement d'une liste de diffusion que d'habitude je lis en diagonale.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille jeter un petit coup d'œil à l'architecture actuelle. Mm-hmm. Donc d'abord, un petit schéma que tu m'as passé qui explique en deux mots comment ça fonctionne. Alors il y a deux grandes parties, si j'ai bien suivi, dans l'appli. Tu as aujourd'hui quelque chose qui est hébergé chez un hébergeur classique et puis toute la partie
Azure. C'est ça. Donc on a parlé des applications, mais dans les applications, il y a une partie serveur. Et la partie serveur, on a un back-end et un front-end. Le back-end, il est on-premise chez un hébergeur classique. Mm-hmm. Il faut dire qu'il y a 2 ans, quand on a commencé le projet News Republic, on avait déjà une structure d'hébergement en place. Et donc, voilà, on s'est dit, on va quand même utiliser ça pour le back-end, qui n'avait pas besoin de scalabilité ou autre. Et donc, ce back-end, il sert essentiellement à l'intégration du contenu de nos partenaires. Donc, c'est expliqué ici. On a plus de 300 fournisseurs de contenu, mm-hmm, qui nous fournissent des flux, alors sous différents formats.
Sous tous les formats du monde, j'imagine.
C'est un peu ça. Quand on en a 300, je pense qu'on commence à avoir une bonne idée de quels sont les formats pour stocker de la news. Donc voilà, on a une première brique technologique qui permet d'importer ces flux, donc RSS, FTP, NewsML. Dans le process, la première étape, c'est de dédupliquer. Parce qu'en France, par exemple, on travaille avec l'AFP Le Parisien. Il se retrouve qu'il y a des dépêches AFP qui sont reprises par Le Parisien, enfin, Europe 1 aussi, ou d'autres. Et l'objectif, quand même, pour l'utilisateur final, c'est qu'il y ait le moins de doublons possible. Donc voilà, on a une première phase algorithmique qui permet de dédoublonner le contenu et de ne conserver qu'un seul article.
D'accord.
L'étape suivante, c'est on a un moteur de tagging qui va, au sein de ces articles-là, détecter des mots-clés qui seront ensuite utilisés dans les applications, parce que c'est la base de la navigation de ces applications est basée sur ces mots-clés. C'est-à-dire que si vous avez un article sur de la politique. On a trouvé François Hollande, Nicolas Sarkozy, pour ne citer que ces deux.
Non, tu dois citer les 10 avant les élections, je suis désolé. Ouais. Vas-y, continue.
Et voilà, et derrière, on peut, dans le texte, cliquer sur Nicolas Sarkozy ou François Hollande et retrouver l'intégralité des articles qui traitent de ces deux personnes.
D'accord.
Donc ça, c'est un moteur de tagging, je ne vais pas rentrer dans les détails technologiques, qui est basé sur une base de données Wikipédia qui nous sert justement avec des algorithmes à retrouver ces tags dans le texte. Et une fois que cette étape-là est passée, on se retrouve avec un article qui est dédoublonné et tagué, et que l'on va insérer dans une base de données core, donc toujours technologie Microsoft, donc du SQL Server. Et donc cette base de données core va se retrouver avec l'intégralité du contenu de nos fournisseurs.
Donc ça, c'est pour tes contenus de texte. Tu as des médias aussi qui accompagnent ?
Alors, médias, donc images, vidéos. Mm-hmm. Donc pour les images, on les récupère, même si elles sont disponibles sur les sites web des partenaires. On préfère quand même tout stocker en interne. Et on va stocker ça directement sur Azure.
D'accord. Donc même sur la partie back-end, tu as une partie qui pousse tout de suite vers Azure.
Il y a une partie qui va. Les médias sont directement déposés sur des blobs Azure.
D'accord. Ensuite, je te propose de te passer la souris que tu as nous montrer maintenant la partie Azure.
Oui.
Donc ici, on a deux parties. Donc ça, c'est la partie base de données.
La partie base de données. Donc voilà, en prémisse, on a une base de données core qui contient l'intégralité du contenu. Le back-end, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de scalabilité, donc c'est très simple, une base de données. Pour le front-end, nos produits sont disponibles aujourd'hui en 5 langues et ce qu'on appelle 8 éditions. Donc la différence, c'est que par exemple en anglais, il y a une édition pour la Grande-Bretagne, une pour les US et une pour le reste du monde en anglais. Donc par région, on se retrouve avec une base de données qui contient le contenu dédié à cette région.
D'accord, donc chaque édition a sa base.
Voilà.
Et du coup, je vois qu'il y a deux zones ici. Juste si je fais un petit zoom, on a une zone US et une zone Europe.
L'objectif de ce découpage, il était double. Il était un, de réduire la taille des bases de données vraiment au contenu qui était essentiel à chacune des régions. Et de deux, de pouvoir utiliser dans le cloud deux plateformes d'hébergement, une aux US et une en Europe, dans l'objectif d'améliorer les temps de réponse. Tout simplement, parce qu'un utilisateur aux États-Unis, il vaut mieux qu'il aille taper sur des serveurs aux États-Unis qu'en Europe.
D'accord, donc ça c'est la partie base de données. Alors on a parlé un petit peu quand on préparait le bulletin. Donc les bases de données sont pas très grosses. Concrètement, c'est quoi? Il n'y a pas d'historique à l'intérieur? Vous gardez quoi quelques jours? Comment ça fonctionne?
Alors effectivement, au niveau des articles, on ne stocke que 7 jours de contenu. Ça dépend, mais c'est à peu près ça, la règle. Ça, c'était une contrainte aussi légale vis-à-vis de nos partenaires. Voilà. C'est ce sur quoi on s'était engagé aussi. Mais techniquement aussi, du coup, ça nous permet de rester dans des tailles de base de données très, très correctes. Voilà. On voit ici Front-end 2. 2, c'est la France. C'est
un peu plus gros, du coup.
C'est un peu plus gros. Mais voilà, on reste en dessous du giga pour la taille des bases.
Et la partie intéressante, c'est que pour alimenter depuis la base de données centralisée où vous rapatriez tous les contenus jusqu'à ces différentes bases, c'est des lots SSIS
tout à fait classiques. Je salue notre administrateur de base de données qui a mis ça en place. C'est une synchro qui a lieu toutes les 2 minutes et qui permet de répliquer en différentiel les informations sur les bases de données Azure.
D'accord, donc toutes les 2 minutes, tu as les mises à jour sur l'Europe et les États-Unis à partir de la base maître qui est l'agrège à 300 flux.
C'est ça.
D'accord. Donc ça, c'est la partie base de données. C'est ce qui va servir de matière pour tous les gens qui vont venir consulter les applications. Mm-hmm. Et eux, ils vont aller taper sur des frontaux.
Oui.
Donc on va aller jeter un œil justement à la partie frontale pour voir un peu comment c'est fait. Et donc ici, on va regarder, commente-nous un peu la partie. Donc la partie américaine, c'est la même mais en plus petit, on ne va pas rentrer en détail dedans.
Oui, c'est la même en plus petit, étant donné qu'elle héberge 2 régions, alors que la plateforme européenne en héberge 6. Donc c'est essentiellement ça la différence. Et si on regarde, en Europe, on a découpé en fait le service d'image et le service API qui renvoie en fait des flux XML aux applications avec le contenu, les articles, titres, descriptions.
Oui, donc ce qu'on n'a pas raconté, c'est que les applis sont des applis qui vivent sur des devices la plupart du temps.
Oui.
Donc la communication qu'elles ont avec le site, c'est principalement 2 échanges. Il y a un serveur d'API qui va fournir tous les flux, les infos qu'il faut afficher, et puis un serveur de médias qui va servir les images aux bonnes tailles en fonction du device qui se connecte.
Donc l'API, c'est Get Articles, c'est des API relativement simples, une quinzaine de méthodes et qui sont donc délivrées par ici c'est écrit Front Région 2.
Donc ça c'est la France.
C'est la France plus l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne.
D'accord.
Et même le reste du monde en anglais. Donc c'est à partir d'ici. Et où on voit que là, actuellement en production, on a 16 cœurs utilisés, 4 instances larges.
D'accord. Et là, elles sont absolument indistinguables. C'est-à-dire que si tu as un besoin de capacité supplémentaire, tu te contentes de rajouter 2 ou 3 nœuds là-dedans?
Oui. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, on est à 4. S'il y a une opération marketing qui nous est signalée, on peut passer à 6, 8.
D'accord. Et là, alors la partie intéressante, c'est que le requêtage base de données n'est pas un requêtage tout à fait traditionnel, parce que comme vous avez une structure très riche en base de données, vous exportez en gros la grappe complète des infos intéressantes, et c'est du requêtage link qui est fait ensuite depuis les frontaux ?
C'est ça. C'est-à-dire que j'ai parlé d'une synchro toutes les deux minutes.
Ouais.
En fin de synchro, en fait, les frontaux sont appelés pour leur dire de nouvelles informations sont disponibles. Un système en fait de mise en cache différentielle est mis en place sur les frontaux et eux ces frontaux travaillent avec des listes d'objets, la liste de tous les ce qu'on appelle des tags par exemple, ça c'est une liste, et derrière en fonction des requêtes des applications clientes de l'API get articles qui va appeler sur un tag ID en particulier, on renvoie. Il y a une requête link qui est faite sur toute cette collection d'objets pour ne renvoyer que la partie intéressante. Mais c'est vrai que voilà, au niveau du SQL Azure, ça renvoie essentiellement des listes d'objets qui sont sérialisées directement, mises en cache, et beaucoup de requêtage est fait directement par les frontaux.
Et vous avez combien de devices aujourd'hui à peu près qui peuvent se connecter à tout ça, le nombre de downloads global que ça représente
Alors, en download, on est à plus de 3 millions de downloads des applications.
Ouais.
Alors ça, c'est sur 2 ans. Donc après, en utilisateur actif, on est à 1 million d'utilisateurs de nos applications par mois. Et ça représente en niveau charge sur les frontaux à peu près 500 requêtes secondes.
D'accord.
Je veux dire pour 2/3 des images. Une bonne partie aussi qui correspond en fait. Il y a des applications qui travaillent en mode pool pour récupérer des alertes, par exemple.
Bah, c'est Android principalement qui va aller chercher
Android, régulièrement. Voilà. On travaille aussi sur Windows 8, par exemple, sur le fait d'utiliser du mode pool pour aller récupérer des alertes. Donc ça, c'est des requêtes qui sont faites depuis les applications clientes à des fréquences définies, donc une demi-heure, 2 heures. Et si vous avez un flash info qui sort, les applications vont appeler les serveurs, voir s'il y a un nouveau flash info à afficher. Voilà. Donc ça, c'est une bonne partie aussi. Et puis le reste,
Ok. Donc ça, c'est toute la partie qui sert les requêtes directes API. Qui sont celles qui sont un peu consommatrices en CPU, puisqu'il va falloir calculer au fur et à mesure. Mm-hmm. Et il y a une autre nature de requête qui arrive, donc c'est les images.
Images, il y a une ferme ici avec 3 instances larges. Voilà, donc elle, en fait, tout le resizing des images est fait, on pourrait dire, à la volée. Il y a quand même une bonne partie qui est mise en cache RAM sur les serveurs. Mais donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on appelle nos serveurs avec l'URL d'image originale
qui est en storage,
qui est dans le storage, et le service lui resize à la volée en fonction de width, height, enfin il y a quelques paramètres à l'API, mais c'est basiquement c'est ça, met en cache RAM le résultat et voilà.
Oui, en fait, c'est un peu particulier, mais dans le cadre d'un site de news, les médias qui sont demandés doivent varier très vite au cours du temps.
Oui.
Et donc, c'est pas la peine de s'ennuyer avec une technique d'expiration compliquée et le restockage.
On avait réfléchi au début à effectivement peut-être générer directement depuis le back-end en fait les images à la bonne taille telles qu'elles allaient être demandées par les applications. Problème à ça, c'est qu'on travaille aujourd'hui avec une telle variété de devices. Ça part du tout petit smartphone. Très grands écrans. et du coup, on a une demande depuis l'application de taille d'image vraiment très différente. Puis vous pouvez l'utiliser en mode portrait, en mode landscape, une application. Donc on se retrouve avec une telle variété de tailles différentes. Le service, il existait avant pour une autre application. On l'a mis en ligne, dans le cloud tel quel. Aujourd'hui, il prend pas non plus énormément de ressources. On reste sur 3 instances larges, ça reste quand même relativement peu. Donc voilà, c'est le choix a été fait comme ça. On verra avec de la croissance d'usage si on pré-génère ces images-là, mais c'est vrai que voilà. Et puis bon, les développeurs des applications clientes sont bien contents parce qu'au moins ils demandent exactement au pixel près la taille des images qu'ils veulent.
D'accord.
Ils n'ont pas de contraintes. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'ils apprécient aussi.
Question indiscrète, servir 1 million d'utilisateurs, ça fait un front-end qui coûte très très cher sur Azure. Un ordre de grandeur.
L'ordre de grandeur aujourd'hui, c'est une solution qui nous coûte dans les 3000 euros par mois.
D'accord.
Voilà. Bon, il y a peut-être moins cher, moi, voilà.
Non, mais je pense que 3000 euros pour 1 million de personnes, c'est supportable comme charge.
Non, mais c'est clairement. Le service est assez simple aussi en termes d'API. Bon, il est peut-être bien développé aussi, je ne sais pas, pour bien tenir la charge. Mais voilà, ça, c'est une infra qui est raisonnable pour un prix qui est quand même raisonnable aussi.
Ouais, alors je vais juste rebasculer un instant sur les slides pour vous montrer. Donc on avait un peu réfléchi aux éléments, mais on vous a expliqué en fait toute la technique globale de fonctionnement à travers la discussion qu'on vient d'avoir. Donc je passe juste les slides pour que vous puissiez les avoir en référence. De l'autre côté, effectivement, sur les profils de charge, et puis on a même passé du temps parce qu'on a carrément été voir à l'intérieur de l'infrastructure comment c'était déployé. Le point qui est amusant là-dessus, c'est que donc 2 ans après, vous avez une solution qui est stable, qui marche pas mal. Vous arrivez à tailler en fonction des demandes de charge. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici sur les frontaux, que ce soit API ou image. Et qu'est-ce que donc les éléments que vous en retenez, donc ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais effectivement le fait d'être sur plusieurs zones continentales, ça permet de se rapprocher des utilisateurs sans avoir de multiples accords à passer, j'imagine.
C'est quand même très confortable. Enfin, on est une petite équipe. Voilà, il y a noté. Il y a 7 personnes en tout, 3 sur le serveur, 3 sur le client, enfin sur les applis clientes, un chef de projet et pas d'admin classique.
Qui c'est qui fait les mises en prod?
Et les mises en prod, au final, c'est moi qui les fais. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ça marche pas trop mal. Voilà, c'est quand même très confortable depuis Bordeaux.
Je voudrais juste insister là-dessus parce que c'est un tout petit peu particulier. En règle générale, on a quand même un profil d'administration qui accompagne un déploiement Azure. Il se trouve que vous êtes une start-up avec des gens techniques et que donc vous avez dans vos compétences les capacités pour faire ça et que ça permet effectivement de se passer complètement de la casquette classique d'administration. Il y a le DBA en gros et puis toi quoi.
Oui, c'est sur la partie serveur, oui. Et puis une personne que j'ai notée en plus, voilà, il y a la partie tagging, il y a aussi quelques développements .NET à côté. Mais on est une petite équipe. Et effectivement, c'est quand même génial de pouvoir, depuis son bureau à Bordeaux, d'un simple clic déployer. Donc je crois que c'est à Dublin et l'autre, je ne sais pas où il est exactement. Oui, je ne sais même pas où est le data center.
En plus, il y en a de nouveaux qui viennent d'ouvrir, donc voilà. Je ne sais même plus donc, où ils sont, les data centers américains.
Voilà, sans avoir eu d'accord à passer ou quoi que ce soit pour trouver un hébergeur dans chacun de ces pays-là, avec des centres d'hébergement qui sont exactement les mêmes. Enfin, en termes de déploiement, pour nous, c'est la même chose, quoi. On choisit juste, au moment du déploiement, vers où on veut faire aller la solution. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. On a en tête, par exemple, l'Asie aussi. Il y a un centre d'hébergement qui est disponible en Asie. Ben, très bien. Je sais que pour faire ça, en tout cas, ça va me prendre 5 minutes pour créer un nouveau compte qui va exploiter la base en Asie. Donc, ça, c'est important. Bon, oui, pour le premier point, c'est le paiement à l'usage parce que c'est vraiment proportionnel. Donc, là-dessus, pas de souci. Staging prod, ben voilà, quand je dis que c'est moi qui fait les mises en production, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Azure, enfin, quand on déploie sur un environnement de test. En fait, c'est des machines qui sont allouées pendant le temps de ce test-là. Et ça nous permet voilà, de vérifier que les API, il n'y a pas de régression ou quoi que ce soit. Et dès qu'on est prêt, en fait, d'un simple clic, cet environnement-là va swapper avec l'environnement de production. Ça prend 2-3 secondes. Enfin, je teste à chaque fois depuis les applications pour voir s'il y a des interruptions de service. J'en ai jamais vu, donc je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais en tout cas, jamais.
Pour la petite histoire, comment ça fonctionne? Quand tu demandes à swapper entre ton environnement de prod et ton environnement de pré-prod, l'ordre, il est pris en compte, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire le swap. On ne fait pas le swap immédiatement, c'est-à-dire que au moment où tu cliques, ça échange pas. Par contre, on renseigne toutes les infos au niveau du load balancer, et une fois que toutes les infos sont renseignées, là on swap. Ça veut dire qu'entre le moment où tu cliques et le moment où ça se fait, il s'écoule du temps. Alors ça peut être plus long que ça, hein. On peut aller jusqu'à quelques dizaines de secondes. Par contre, à la seconde où on bascule tout le monde, toutes les nouvelles requêtes vont sur les nouveaux serveurs immédiatement et automatiquement.
C'est bien ce qu'on voit en tout cas quand on regarde les traces sur les serveurs, que voilà, les requêtes qui étaient en cours, ben, elles restent quand même sur l'environnement qui était live, ça swap. Enfin, voilà. Et puis même si on a bien testé, si on a fait une erreur, on peut revenir en arrière en 10 secondes aussi. Quoi.
Il faut recliquer.
Il faut juste recliquer. Donc, dans notre procédure, on laisse toujours les deux environnements. Même une fois qu'ils ont été swappés pendant une, deux heures, le temps d'être sûr qu'il n'y a pas eu de régression, on ne sait jamais. Et c'est à ce moment-là qu'on détruit l'environnement de
le staging. Le vieil environnement,
parce que si vous ne le détruisez pas, quand même, vous le payez. Donc, voilà, on le détruit au bout d'une, deux heures, quand on s'est bien assuré que personne ne nous a appelé parce que ça ne marche plus.
Ok, c'est pas mal parce que ça met bien en avant effectivement le fait que vous vous en soyez sorti rapidement là-dessus. Concrètement, on va terminer là notre édition spéciale témoignage parce que je voulais surtout papoter avec toi de ce que vous aviez fait de votre côté. Je soupçonne qu'on sera amené à en reparler parce que vous avez donc pas mal de nouvelles applis qui sont en déploiement aujourd'hui et en développement un peu côté client et puis éventuellement de nouvelles zones ou de nouveaux sujets, donc Sports République par exemple. Et d'ici là, nous on se retrouvera tous aux alentours du 15 mai pour faire un bulletin Azure classique. Et si vous voulez changer autour de ce type de réalisation, on est en train de mettre en place aussi une permanence Azure qu'on vous présentera donc le 15 mai et qui permet de discuter quand on est dans l'état où tu étais il y a 2 ans quand tu as reçu le mail. Toi, tu es parti tout seul et ça s'est bien passé. Les gens qui aujourd'hui se posent la question, maintenant, on sait aussi discuter avec eux et pas les laisser tout seuls dans leur coin. Donc voilà, en deux mots, donc un grand merci Thierry. Et on te retrouve dans quelques mois pour la suite de tout ça. Et pour les autres, le 15 mai pour le prochain bulletin Azure.